Bonjour à tous, vos oreilles sont branchées sur l'AFP, vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de la rédaction aux États-Unis. Je suis Antoine Boyer, heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode enregistré fin janvier 2019.
From this day forward,
à compter de ce jour, c'est une nouvelle conception qui va diriger notre pays.
From this day forward,
à compter de ce jour, ça sera uniquement l'Amérique d'abord.
America first.
L'Amérique d'abord, c'est un peu la marque de fabrique diplomatique de Donald Trump. Ce 20 janvier 2017, lors de son fameux discours d'investiture, il avait donné le ton, décontenancé ses alliés et surpris même ses adversaires. Avec Twitter, son canal diplomatique en 280 caractères, Donald Trump casse les codes et désarçonne même au sein de son gouvernement. Dans ce numéro, je vous emmène dans les coulisses de l'administration, là où se joue la diplomatie de la première puissance mondiale. Tournée au Moyen-Orient avec le secrétaire d'État, dessous de la démission fracassante du chef du Pentagone, l'AFP dans les bagages de la diplomatie américaine, on décolle.
Président Donald J. Trump.
So that we can keep making America great again.
Francesco Fontemaggi, bonjour.
Bonjour.
Tu es le correspondant diplomatique de l'AFP à Washington. Tu suis le département d'État, soit l'équivalent du ministère des Affaires étrangères ici aux États-Unis. Et mi-janvier, tu as accompagné le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Mike Pompeo, dans sa tournée au Moyen-Orient. Alors raconte-nous un peu où êtes-vous parti, pendant combien de temps ?
C'était un gros voyage parce qu'il est parti 7 jours, dans 8 pays, en Jordanie, on est allé en Irak, on a enchaîné avec le Caire, Bahreïn, on est allé à Abu Dhabi, Doha au Qatar, à Riyad, et enfin on a terminé par Oman. Donc c'était vraiment un marathon très intense. Certaines étapes on a dormi, d'autres on a passé 3-4 heures seulement. Avec rencontres, conférences de presse, on reprend l'avion, on continue. Voilà, c'était intense.
Comment ça se passe ? Vous voyez souvent Mike Pompeo, vous lui parlez dans l'avion. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle du off ou même des conférences de presse improvisées dans son avion.
Alors, c'est un voyage où on a eu pas mal d'accès à lui par rapport à ses habitudes, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est très... friand de répondre aux questions de la presse. C'est quelqu'un qui peut être assez... hostile, voire agressif par moments avec les journalistes qui le suivent. Et là, il a commencé lors de la première étape. À un moment donné, je lui ai posé une question. Et on était juste après l'annonce du retrait de Syrie, des soldats américains de Syrie par Donald Trump. Je lui ai demandé, le retrait de Syrie inquiète beaucoup de vos alliés. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Et là, il m'a vraiment répondu du tac au tac. Quelles sont vos sources ?
Tell me what your source is for the fact that they have lots of questions.
Wow. I'm French, the French does have a
spoken to the French. I've spoken to
ce qui m'a totalement étonné, mes collègues avec, puisque c'est quelque chose qui est totalement public. Enfin, tous les alliés l'ont exprimé leurs inquiétudes. Du coup, j'étais tellement surpris par sa réponse un petit peu inattendue que je lui ai dit, moi je suis français, les Français l'ont dit publiquement. Donc voilà un exemple. Et ça l'a vraiment calmé. Il dit non, mais voilà, on est en conversation avec les Français, les autres alliés. Je pense que maintenant ils comprennent. Il s'est calmé. Et sur la suite du voyage, il s'est abstenu d'avoir de telles réactions un petit peu épidermiques aux questions qu'on lui posait, comme il en a eu plusieurs fois par le passé.
Comment tu qualifierais la ligne diplomatique de l'administration Trump ?
Déroutante. En fait, on a l'impression que Trump est arrivé la première année avec beaucoup de promesses de campagne. Je veux partir de là, d'Afghanistan. Je veux déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Beaucoup de choses comme ça qui étaient des décisions de désengagement. Et que, quelque part, il venait d'arriver, ses équipes, au départ, étaient assez classiques, l'ont dissuadé, les alliés l'ont dissuadé de franchir le pas. Donc, finalement, la première année, il est resté dans l'accord nucléaire iranien. Il a même envoyé des renforts en Afghanistan en disant, bon, je voulais partir, mais quand on est dans le bureau ovale, la perspective change. Donc, une sorte de présidentialisation, quand même, de rentrer dans les clous, finalement, d'une diplomatie assez traditionnelle. Il y avait une espèce de cadre. Et en fait, la deuxième année, ça a changé. Petit à petit, il a déjà commencé à se débarrasser, ou alors ils sont partis des gens qui au sein du gouvernement, dans son équipe de politique étrangère, comme Rex Tillerson, le conseiller à la sécurité nationale McMaster, voilà, des gens qui quand même, on disait à l'époque, c'était les adultes dans la pièce, celui qui empêche, selon les détracteurs de Trump, le petit garçon à la crèche de faire des bêtises. Petit à petit, ces gens sont soit partis, soit ont été limogés. Le dernier en date, c'est Jim Mattis.
Jim Mattis, l'ancien ministre de la Défense.
Le ministre de la Défense.
Sylvie Lantôme, bonjour.
Bonjour.
Tu es la correspondante de l'AFP au ministère américain de la Défense. Jim Mattis était l'ancien ministre de la Défense. Quel est son parcours? Comment il arrive?
C'est le premier membre de l'administration à avoir été choisi. C'est un ancien général des Marines qui s'était opposé à Obama sur l'Iran parce qu'il trouvait que Obama était trop arrangeant avec l'Iran. Et donc, je pense que la campagne de Trump a dû voir dans cet homme quelqu'un de suffisamment dur pour faire partie de leur administration. Je pense qu'en fait, ils se sont un peu trompés sur lui, parce que je ne sais pas quelles étaient ses opinions politiques, il n'en parlait jamais. C'était très important pour lui, d'ailleurs, de ne jamais en parler.
Il était dans l'administration Trump, donc oui. Il servait l'administration Trump, mais il ne donnait pas ses opinions politiques.
Jamais. C'était un ministre, mais il refusait l'aspect politique de sa charge. Il disait, moi, je suis un militaire, c'est ma culture, voilà, je suis comme ça. Par exemple, il ne disait jamais, je vais chez moi, il disait, je vais dans mes quartiers. C'était vraiment un militaire dans l'âme, et comme tout militaire, pour lui, parler politique et faire de la politique, c'était vraiment tabou.
Et donc, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Jim Mattis?
La goutte d'eau, ça a été la Syrie. Ce qui s'est passé, c'est que le 19 décembre, Trump a tweeté le départ de tous les soldats américains déployés en Syrie.
And we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home.
Ce qui voulait dire que toute la coalition internationale qui agissait en Syrie aux côtés des Kurdes perdait son bras armé, parce que le bras armé de la coalition en Syrie, c'était les Américains. 2000 soldats étaient déployés officiellement. Et là, le silence radio au Pentagone. Personne ne dit rien au Pentagone. Et là, je suis au bureau, dans mon petit bureau au Pentagone, et je cherche à obtenir des réactions. Les gens étaient complètement pétrifiés. Les porte-paroles avaient disparu, ils étaient tous en réunion. Les rares porte-paroles que j'arrivais à voir me disaient « je ne peux rien vous dire ». Quant à Mattis, il avait complètement disparu, personne ne le voyait. En plus, le lendemain, je savais que je partais en vacances. Et je me suis dit « c'est terrible, je vais partir en vacances et Mattis va démissionner ». Comme j'étais en congé, je m'en vais faire mon marché. Et je reviens du supermarché vers 5 heures et mon compagnon me dit « Sylvie, viens voir, viens voir ». Et à la télé, il y avait Trump qui venait de tweeter le départ de Mattis. Alors, je me précipite sur mon laptop, j'ouvre et je dis à mon rédacteur en chef, je suis là, je travaille, je peux te faire la démission de Mattis. Et au même moment, je reçois une lettre de Mattis par email que m'envoie le Pentagone. Et je la lis et cette lettre, je comprends que c'est Mattis qui démissionne, c'est pas Trump qui l'a renvoyé. Dans cette lettre, Mattis règle ses comptes et il dit à Trump, moi, je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup d'expérience, ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'ai du respect pour les alliés, nos alliances et nos alliés, j'ai du respect pour ceux qui se battent à nos côtés, et là il fait allusion aux Kurdes en Syrie, et comme nos valeurs sont vraiment très différentes, je pense que vous avez besoin d'un nouveau ministre de la Défense. Et cette façon de lui dire « je pense que nos valeurs sont très différentes », c'est une façon de lui dire vraiment « vous n'avez aucun respect, vous n'avez aucune expérience et vous ne respectez même pas ceux qui meurent aux côtés des Américains ».
Thank you. Francesco, question coulisse, il est comment l'avion de Mike Pompeo ?
C'est un avion assez confortable. À l'avant, il y a une pièce réservée au secrétaire d'État, vraiment cloisonnée, où il a son bureau avec des communications sécurisées, parce qu'en vol, il peut faire des coups de fil, appeler le président Trump ou ses homologues pour des entretiens. Donc c'est un temps de travail pour lui, le temps dans l'avion. Derrière, il y a toute une partie où est sa délégation, avec, disons qu'il y a une trentaine de personnes dans la délégation. Le médecin du secrétaire d'État est là aussi dans un tel voyage. Il faut voir que le secrétaire d'État est un peu la quatrième personnage de l'État aux États-Unis. Et donc, c'est une personnalité autour duquel il y a une sécurité et des précautions infinies qu'on n'imagine même pas en France pour un ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a tout le Secret Service, c'est-à-dire la service de protection des hautes personnalités. Il y a plusieurs gardes du corps qui sont dans l'avion. Et tout au fond, des journalistes qui n'ont pas le droit de dépasser la ligne au-delà des toilettes de l'avion. Donc on se croise avec la délégation aux toilettes, mais c'est tout.
Comment tu fais pour faire ton travail, pour écrire des dépêches pour l'AFP dans ce genre de voyage ?
J'essayais de jongler. La plupart du temps, ce sont des papiers écrits dans des minivans à l'arrivée de l'avion ou dans l'avion, ou dans un coin de salle, entre deux déplacements, etc. Parce qu'on est pas mal transporté d'endroit en endroit par les ambassades locales des États-Unis ou par le département d'État. Là aussi, il y a un changement entre l'administration Trump et les précédentes administrations. C'est-à-dire que la tradition, je n'étais pas là avant, mais la tradition, c'était qu'il y avait environ 13 places dans l'avion du secrétaire d'État pour les journalistes, quel que soit le voyage. Et donc avec 13 places, en réalité, toutes les agences de presse, tous les quotidiens qui voulaient partir avaient la place pour y aller. Et donc, chacun faisait son boulot. Alors que depuis l'administration Trump, qu'on a été obligé d'instaurer parmi les journalistes qui couvrent le département d'État, américains pour la plupart, l'AFP est un des rares médias, voire le seul média étranger, non anglophone en tout cas, à suivre, à être vraiment dans le pool de journalistes. Et donc on a été obligé d'instaurer une rotation et des pools. Donc à tour de rôle, on fait les voyages. Dans ces cas-là, eh bien, on est journaliste pour son propre média, pour l'AFP, mais on est aussi le correspondant de tous les autres médias américains qui sont accrédités au département d'État. Et donc, on fait des notes de poule, c'est-à-dire quoi que dise le secrétaire d'État, quoi qu'il fasse, tout ce qu'on voit, ses rencontres, même ses poignées de main, même quand il ne dit rien, quand il ne répond pas à une question, on doit le rapporter dans une note de poule qu'on envoie à tous les autres journalistes qui couvrent le département d'État. Et donc, la priorité à ça, je ne peux pas donner une info à l'AFP avant de l'avoir donnée au poule.
Et au cours de ce voyage au Moyen-Orient, une des étapes les plus importantes, c'était l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Parce qu'il y a cette pression sur l'administration américaine, à la fois médiatique et à la fois du Congrès américain, sur il ne faut pas que les relations entre les États-Unis et les dirigeants saoudiens restent business as usual, reprennent comme si de rien n'était après que ce journaliste, Jamal Khashoggi, saoudien, critique du régime, a été assassiné, démembré par un commando d'agents saoudiens arrivé de Riyad à l'intérieur d'un consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Quelque chose d'assez inouï. Les Saoudiens ont d'abord essayé de dire que non, pas du tout, ils n'étaient pas impliqués. Ils ont dû finir par reconnaître qu'un commando était allé là-bas pour lui parler et que l'opération avait dégénéré en dehors de la volonté, disent-ils, des hauts dirigeants de Riyad, et que Khashoggi a été tué et démembré. Il y a eu beaucoup de pression. Le Congrès américain, les élus, même républicains, c'est-à-dire du même camp que le président Trump, ont dit stop. Mais Trump et Pompeo ont dit premièrement, on n'a pas de preuve irréfutable qu'ils soient directement impliqués. Et ils ont dit, de toute façon, nos relations sont avec le royaume d'Arabie Saoudite. On ne choisit pas les dirigeants des autres pays. Et nos relations avec l'Arabie Saoudite sont trop importantes pour qu'on puisse les remettre en cause. Donc, c'est un peu business as usual quand même. Et donc, c'était très, très, très attendu ce voyage parce que Mike Pompeo est allé une première fois en octobre, juste après l'assassinat de Khashoggi, à Riyad, pour essayer d'avoir des explications, de faire un peu la lumière sur ce qui s'était passé. Et il avait été très, très, très critiqué ici à Washington parce qu'il s'était affiché avec le prince héritier, tout sourire, presque des accolades, voilà. Comme avec un ami. Et donc là, c'était un petit peu comment va-t-il gérer cette deuxième visite. Et on a senti clairement une différence. J'ai eu la chance d'être dans le petit pool restreint de journalistes qui ont assisté à la rencontre. Au début de la rencontre, bien entendu, on n'entend pas vraiment ce qu'ils se disent, mais on voit le body language, c'est-à-dire comment il s'exprime, comment il se comporte à côté d'un interlocuteur. Et cette fois, on a assisté à un Pompeo avec un sourire beaucoup plus poli et réservé, et surtout très intéressant. Mike Pompeo et cette administration, la plupart du temps, s'abstiennent de parler de droits de l'homme quand il s'agit de pays alliés. Et là, il a fait une petite table ronde avec les envoyés spéciaux et nous-mêmes, juste avant de quitter Riyad. Et de lui-même, avant qu'on lui pose la question, il a dit « J'ai évoqué la situation des droits de l'homme et des femmes activistes dans ce pays. On a fait comprendre qu'il fallait quand même des évolutions, etc. » Ce qui est assez intéressant venu de sa part, on sentait vraiment qu'il voulait faire passer un message que « Ok, message reçu, on ne fait pas exactement comme avant, même si, in fine, l'alliance stratégique avec l'Arabie Saoudite l'emporte. »
Et justement, sur la question des droits de l'homme, le rapport de l'administration de Trump aux droits de l'homme.
En réalité, toutes les administrations américaines, et ailleurs dans le monde aussi, il ne faut pas se leurrer, sont toujours beaucoup moins regardants sur les droits de l'homme avec les amis, les alliés stratégiques, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou ailleurs, qu'avec les ennemis. Il y a vraiment un deux poids, deux mesures, qui est une sorte de réalisme en réel politique, en diplomatie, mais qui là est quand même poussé à l'extrême.
Bonjour Hervé Rouache.
Bonjour Antoine.
Alors tu es le rédacteur en chef Amérique du Nord de l'AFP. Est-ce que la diplomatie Trump, elle marche ?
Je dirais que sur la Chine, Trump tente quelque chose qui n'a jamais été tenté par personne. Jusqu'ici, la façon de faire de la diplomatie commerciale ou économique avec la Chine a toujours consisté pour les Occidentaux à composer avec le pouvoir chinois de façon respectueuse, dans un esprit extrêmement diplomatique. Trump tente quelque chose de totalement différent, qui est d'essayer de mettre une pression maximale sur les Chinois, avec les tarifs douaniers donc, qu'il a imposés sur des quantités énormes de produits chinois, ces produits qui inondent le marché américain et qui permettent aux Américains d'avoir accès à des produits pour des prix très avantageux, eh bien, il tente quelque chose qui n'a jamais été tenté. Pour l'instant, les négociations ont été lancées, et là, on va voir ce qu'elles vont donner, mais c'est certain que c'est une politique totalement nouvelle, une stratégie totalement nouvelle qui est tentée là avec la Chine.
Donc sa stratégie, c'est de taper du poing sur la table d'abord et de négocier ensuite, en fait.
De taper du poing sur la table, de mettre des sanctions, des menaces, de les mettre parfois à exécution en imposant, par exemple, des tarifs. Il l'a fait sur le traité ALENA, effectivement, avec le Mexique et le Canada, même si le résultat est un résultat plutôt limité en termes de changement du traité. Mais sur la Chine, les enjeux sont énormes. C'est le leadership dans la technologie, notamment pour les décennies qui viennent, qui se joue peut-être dans cette négociation et dans cette stratégie de Trump.
J'ai envie de revenir un peu sur la personnalité à nouveau de Donald Trump, qui s'exprime énormément sur son compte Twitter. J'avais envie de demander si son compte @real Donald Trump a bouleversé la diplomatie américaine.
Bien sûr, il a bouleversé la diplomatie américaine comme il a bouleversé la politique américaine. Puisque de toute façon, c'est l'un de ses moyens d'expression préférés. C'est un moyen d'expression qui est effectivement très bref, très rapide, qui lui permet aussi de changer de rythme, de changer la narration lorsqu'il estime que c'est nécessaire ou lorsque son instinct lui dit que c'est nécessaire de le faire. Et ça, c'est très important. Il se fie aussi à la relation personnelle qu'il peut avoir avec d'autres leaders. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour lui. On le voit avec le Nord-Coréen, Kim Jong-un, on le voit avec d'autres. On l'a vu avec Emmanuel Macron au début. On a vu qu'il y avait cette espèce de complicité en dépit des différences idéologiques, des différences de génération, qui était un petit peu surjouée aussi. On a eu l'impression que Emmanuel Macron savait prendre Trump, mais ça s'est détérioré au fil du temps. Le président français n'a pas obtenu non plus beaucoup de résultats. Il n'a pas réussi à convaincre notamment Trump de ne pas sortir de l'accord de Paris sur le climat, par exemple. Et donc voilà, la relation s'est détériorée. Mais donc, Trump, c'est ça, c'est l'instinct, la relation personnelle, et puis l'effet de surprise.
Donald Trump, ses décisions diplomatiques, il les prend sur quelle base ? Est-ce que c'est justement pour plaire à sa base électorale qu'il prend ses décisions diplomatiques ?
Il a une idée, bon, effectivement, c'est l'Amérique d'abord, c'est les intérêts des Américains d'abord, C'est une forme de retrait, de prise de distance par rapport aux alliances traditionnelles. Il est persuadé que l'Amérique n'est pas bien traitée dans ses alliances, que ces alliances sont déséquilibrées, aussi bien au niveau de la défense qu'au niveau des intérêts commerciaux. Donc voilà, il est le tenant d'une forme d'isolationnisme, comme on dit, quand on veut utiliser des mots compliqués. Ses décisions, elles sont prises sur cette base-là. Et puis, autour de lui, il y a ses intérêts américains qui ressurgissent, permanents, qui ressurgissent. On le voit sur la Russie. Son instinct, c'est qu'il faut avoir des bonnes relations avec la Russie. Son instinct, c'est qu'il faut se rapprocher de Poutine, parce qu'il a aussi une affinité avec ces personnages plus autoritaires. Alors, il y a l'affaire russe qui pollue tout ça. Mais il y a aussi cette vision qu'ont beaucoup de responsables américains, de responsables politiques américains, la plupart d'entre eux, que la Russie est l'ennemi. Et donc, d'un côté, on a un président qui œuvre à une forme de rapprochement, en tout cas qui dit qu'il veut une forme de rapprochement. Et puis, de l'autre, on a des sanctions, on a de la fermeté et toujours beaucoup de méfiance.
Trump fait une politique, globalement, même sur le plan intérieur, qui est celle de satisfaire sa base électorale. Il y a vraiment une politique de désengagement, une politique d'unilatéralisme. America first, l'Amérique d'abord, le reste, quelque part, est vraiment secondaire. Les alliés, s'ils ne sont pas contents, tant pis pour eux. On met la pression sur l'OTAN, dont les États-Unis sont le premier pilier. Ils se désengagent de plusieurs traités de désarmement internationaux ou bilatéraux avec la Russie. Il y a une vraie politique de désengagement et il déroute et finalement il y a une certaine cohérence. Il y a un ancien diplomate qui est aujourd'hui président du Council on Foreign Relations ici aux États-Unis, qui est un think tank basé à New York, donc Richard Haass, qui a parlé de la doctrine du retrait. Les États-Unis se retirent, se désengagent de la scène multilatérale. Ils se désengagent pas du monde, puisque bien entendu ça reste la première puissance, mais ils se désengagent d'une scène multilatérale et d'un ordre international tel qu'il avait été bâti après la Seconde Guerre mondiale.
L'épisode 4 de Fragments d'Amérique s'est terminé. Un grand merci à Francesco Fontemaggi, Sylvie Lantôme et Hervé Rouache pour les conversations, à Brigitte Dussault, Alice Chiche, Léo Mourin et Daniel Slim pour leur aide précieuse, et à Lucie Aubourg qui a fabriqué et monté avec moi ce numéro 4. À très vite pour de prochains Fragments d'Amérique.